Le débat africain. Alain Foucault.
À la faveur des atermoiements, des débats sur le traitement du Covid-19, sur l'efficacité de tel ou tel médicament, sur le bien fondé du confinement, sur le mode de contamination du virus, sur la qualité des tests, l'opinion publique africaine a découvert avec un regard nouveau ses tradis praticiens, mais également ses chercheurs. Ceux pour qui on n'avait presque pas de considération et qui pourtant apportent des solutions, des réponses à leurs questions, à leurs préoccupations. Ceux qui, pendant cette période de doute et de peur, leur ont proposé les fruits de leurs recherches, leur ont proposé des médicaments à eux. Bref, les start-upers du secteur scientifique que l'on traitait jusque-là avec condescendance semblent avoir pris du galon. Mais passé les moments de peur intense, quelle stratégie pour réellement développer la recherche scientifique en Afrique? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à ces hommes de l'ombre qui, au quotidien, essaient d'adapter la technologie aux réalités locales. Plusieurs invités en direct au téléphone. D'abord, Cheikh Sekou Bamba, doctorant en Engineering Management, directeur général de SCB Systems, qui a initié une solution de santé baptisée Apollo. Il est basé à Washington, D.C. Bonjour, Cheikh Sekou Bamba.
Bonjour, Alain.
Notre second invité est en direct de Cotonou, au Bénin. Cédric Degbo est le fondateur et directeur général de la plateforme collaborative REMA, qui s'est donné pour mission d'aider les médecins et étudiants en médecine exerçant en Afrique à partager et démocratiser leurs connaissances. Il a d'ailleurs obtenu le prix de l'innovation numérique 2019 du FIDEA. Il faut dire qu'il voulait s'attaquer à l'épineuse question des erreurs médicales qui fait tant de victimes en Afrique. La troisième cause de mortalité dans le monde après le cancer et les problèmes cardiovasculaires. Bonjour Cédric Degbo.
Bonjour.
Notre troisième invité est le docteur Éloi Herman Monkam, le fondateur et médecin-chef de la fondation médicale Théa, créateur de l'application médicale Théa Health Again, qui met en relation patients et praticiens. Dr. Éloi Herman Monkam est aussi le fondateur et directeur général de MH Origins Enterprise. Bonjour Dr. Éloi Herman Monkam.
Bonjour Monsieur Foucault.
Au cours de cette pandémie, tous les trois, vous avez été sollicités par vos différents gouvernements pour proposer vos différentes solutions, tant pour cartographier les malades que pour les mettre en relation avec les médecins. Avant cette pandémie, aviez-vous déjà des contacts professionnels avec ces pouvoirs publics? Ou est-ce la pandémie qui les a forcés à se rapprocher de vous? Cheikh Sekou Bamba, je me souviens lorsqu'on s'est vu il y a un peu plus d'un an à Washington D.C., vous n'aviez pas encore pris attache avec le gouvernement ivoirien. Est-ce la pandémie qui a offert cette opportunité?
Je dirais oui à mon niveau. La collaboration a été faite avant le Covid. Mm-hmm. Comme en anglais, nous l'appelons en fait des Covid-19. So, voilà pourquoi sinon la Covid-19. Il faudra dire en fait que nous avons une application déjà pour redéfinir l'écosystème de santé en Afrique. Et celui-ci était déjà pour parler en collaboration avec certains gouvernements africains tels que le gouvernement ivoirien.
En quoi ça consiste très concrètement, cette solution?
Nous redéfinissons en fait l'approche du système de santé à travers en fait la gestion du savoir. C'est-à-dire, nous avons une plateforme qui met en synchronisation toute l'étendue en fait du système sanitaire, c'est-à-dire le patient, le médecin, les hôpitaux, les pharmacies, les décideurs et le gouvernement, afin que l'information soit partagée de manière live à travers un système de nouvelles technologies qui est appelé le cloud, qui permet la disposition de toute information à temps réel à chaque utilisateur.
Alors l'ignare que je suis, l'ignorant que je suis, se dit tout ça est bien technique. Très concrètement, ça se passe comment? Comment mettez-vous toutes ces personnes en relation avec le patient?
Oui. So, avec l'application Apollo, si un médecin veut en fait prêter un patient, immédiatement il a accès à son dossier médical. Et l'historique de ce dernier en fait permettra la prise de décision pour le traiter ou non. Mm-hmm. Et les autorités peuvent suivre ensuite l'activité de ce médecin. En cas d'une faute professionnelle, elles pourront en fait aller vers lui et lui en fait montrer toutes les données qui prouvent qu'il a été mauvais dans sa gestion et tout. En plus, pour la prise de décision officielle sur les différentes stratégies de développement, l'avancée des cliniques, l'avancée des centres hospitaliers dans différentes régions, même la prise en charge des femmes malades, des femmes enceintes, tout est synchronisé en un seul, on dira, database.
C'est une grande base de données médicale, c'est bien ça, non?
Oui, oui. Une grande base de données médicale qui permet en fait l'accélération de la prise de décision vers une efficacité.
C'est fait par qui? Je veux dire, votre partenaire, c'est l'État ou bien le patient lui-même? Est-ce que le patient est directement concerné ou bien ça marche entre les professionnels de la santé?
Le patient est directement concerné. Voilà pourquoi nous définissons notre application comme un écosystème. Mmh. Parce que le patient est concerné, l'État est concerné, le docteur, tous les professionnels sont concernés.
Mais comment le patient est concerné? Il télécharge l'application, c'est quoi exactement?
Oui, il télécharge notre application qui est Apollo, qui est gratuite, qui est disponible sur le App Store et le Google Play et encore à travers l'Internet, tant qu'il a accès à Internet. Mm-hmm. Et nous avons aussi le volet pour le téléphone portable parce qu'il fallait penser à l'universalité de notre système. Mm-hmm. Donc nous avons le USSD code, c'est-à-dire le système africain qui utilise les codes SMS pour mm-hmm. pouvoir avoir accès à notre service.
D'accord. Donc, un patient, s'il veut avoir toutes ses données médicales, télécharge votre application. Et cette application est gérable, est vue par les autres médecins qui doivent aussi avoir l'application, c'est bien ça?
Oui.
Les médecins aussi téléchargent l'application. Comme ça, lorsque le patient arrive, ils ont juste à se connecter à son nom.
Yes. Et cette connexion, en fait, se fait de manière sécurisée parce qu'on n'aimerait pas, en fait, que toute personne ait accès en fait à ces données et tout. Pour la protection des données personnelles, nous avons trois différents layers de sécurisation. Il y a avant-gardiste en ce moment en fait. Et par notre application est même soutenue par, comme nous l'avons dit, par National Science Foundation aux États-Unis, par Amazon, AWS et par en fait les autorités américaines.
Je rappelle que vous êtes doctorant en même temps que vous avez cette start-up, mais vous êtes doctorant en même temps au George Washington University. Alors, aujourd'hui, qui sont les clients que vous avez dans votre portefeuille? L'État de Côte d'Ivoire et qui d'autre?
En ce moment, l'État de Côte d'Ivoire est proche d'une confirmation et nous avons en fait l'État du Burkina avec qui nous avons entamé les pourparlers.
Alors, on va se tourner vers Eloi Herman Monkam, qui lui est le fondateur et médecin-chef de la Fondation Médicale Théa, créateur de l'application télémédicale Théa Health Again, qui met en relation patients et praticiens, fondateur et DG de MH Origins Enterprise. Alors, dites-nous, en quoi consiste votre application à vous?
Alors, Monsieur Foucault, merci déjà de me recevoir. C'est très simple, on a constaté qu'il y a en moyenne un médecin pour 10 000 habitants en Afrique. Donc, il y a une formation d'informaticien à la base. J'ai pensé à créer une application qui mettrait en relation un patient et un médecin éloigné géographiquement pour une consultation à distance, aussi simple que ça. Depuis 2017, nous avons environ 35 000 consultations dans 14 pays déjà. Et elle est entièrement gratuite, l'initiative. Donc, l'idée était que les patients géographiquement éloignés, qui n'ont pas suffisamment d'argent, qui vont consommer des potions ou qui fuient l'hôpital, puissent accéder à des médecins via leur smartphone, aussi simple que ça. Donc, elle s'appelle That Health Again, c'est l'application, ça veut dire cette santé encore, en abrégé T-A-T-H-E-A. Donc, les patients arrivent et nous, on les consulte à distance, on leur fait même des prescriptions, ce qu'on appelle une téléprescription. Ils vont à la pharmacie dans leur zone, peu importe le pays où ils sont situés, et récupèrent les médicaments simplement.
Cela veut dire très concrètement, j'habite dans une zone rurale éloignée, je n'ai pas accès à un médecin, j'ai téléchargé l'application, je peux consulter un médecin directement sur mon application. Sur mon téléphone.
En temps réel, sur votre téléphone ou sur votre PC. En temps réel, ce n'est pas une consultation différée. On a une discussion en temps réel.
En vidéo ou bien en audio? Ou par SMS?
Il y a les trois. Also, SMS, vidéo et audio, en fonction de la disponibilité du médecin.
Donc aujourd'hui, c'est quoi l'application et comment on la télécharge? Celui qui nous écoute, qui est à Banfora au Burkina Faso ou qui est à Boaké en Côte d'Ivoire, comment il télécharge cette application? Est-ce que ça marche là-bas?
C'est très simple, ça marche dans tous les pays d'Afrique. L'application a deux langues, anglais et français. Il va sur le Google Play Store qu'on a tous sur nos smartphones. Il tape That Again ou TEA, T-H-E-A pour l'abréviation. Il déchire l'application et directement il a une interface où il y a des médecins qui sont disponibles et qui sont connectés à l'heure où il veut qu'on institue le médecin. Pour le moment, on a une trentaine de médecins, précisément 34, avec des spécialistes, gynécologues, pédiatres, dermatologues et généralistes, qui consultent en temps réel. Malheureusement, l'application n'est pas gratuite. On a eu des difficultés à avoir plus de médecins parce que voilà, ils voulaient rentabiliser le temps. Mais nous, on s'est dit, on va d'abord offrir une solution gratuite au peuple africain.
Justement, est-ce que le risque n'est pas le fait que ces médecins ne gagnent rien et que finalement, quel est leur intérêt de consacrer autant de temps aux malades s'ils ne peuvent pas gagner leur vie? Est-ce qu'il n'existe pas un modèle économique qui puisse être mis en place pour que ces médecins puissent se faire payer des consultations d'une façon ou d'une autre?
Effectivement, ça marche. Ça existe. Il fallait d'abord proposer le modèle de médecin et faciliter l'accès aux patients. Si, de prime abord, on mettait un montant à payer avant d'accéder à l'application, les Africains étant ceux qui sont très dubitatifs, ils n'iraient pas. Maintenant qu'on a eu la chance de communiquer suffisamment, une autorité un peu installée et qu'on connaît l'application, on a prévu dans les mois qui viennent de passer à un modèle de paiement par mobile money, comme on dit en Afrique, environ 1 euro. Donc, 650 la consultation.
CFA.
Le patient, où qu'il soit, CFA, il précise, le patient, où qu'il soit, accède au médecin, il peut échanger avec lui. Et au bout de la consultation, il a sa prescription médicale ou alors son orientation médicale.
Alors, ça veut dire que bientôt, celui qui est dans l'arrière-pays peut, par mobile money, faire une consultation auprès d'un médecin.
Oui, il pourra. Si j'ai bien compris. Il devra payer. Il devra payer. Pour le moment, c'est entièrement gratuit et ça fonctionne très bien. Mais on ne peut pas établir un système serein avec la gratuité. Donc, on voulait d'abord être humain. L'idée était au départ une application sociale qui va aider les peuples africains. On a espéré au début avoir l'accompagnement des États. On a fait beaucoup de démarches sans succès. Et en équipe, on a décidé enfin de passer à la phase payante.
On va parler de l'écosystème à créer autour de toutes ces applications dans un court instant, mais je me tourne vers Cédric Degbo, qui lui est le fondateur et DG de la plateforme collaborative REMA, qui est au Bénin. Il s'est donné pour mission d'aider les médecins et étudiants en médecine exerçant en Afrique à partager, à apprendre et à améliorer leurs compétences à travers la démocratisation de la connaissance médicale. Parlez-nous un peu de cette application, Cédric Degbo.
Merci Alain pour cette belle introduction de ma solution. Voilà, je suis Dr Cédric Degbo, je suis médecin et puis fondateur du réseau d'échange entre médecins d'Afrique. Il y a aujourd'hui un service de collaboration médicale à distance dédié aux médecins exerçants en Afrique. La problématique qu'on essaye de résoudre en fait, c'est celle de l'isolement professionnel du médecin africain. Il y a un des interlocuteurs qui a évoqué tout à l'heure le très faible taux de médecins,
tout à fait.
Par habitant sur le continent africain. Et c'est vrai que les données ont un peu plus évolué. Avant, c'était un médecin pour 10 000 habitants, mais aujourd'hui, on en est à 2,7 médecins pour 10 000 habitants.
Ce qui ne change pas de beaucoup, même.
Exactement, et c'est toujours inférieur, largement inférieur aux recommandations de l'OMS en la matière.
Oui, qui est de...
Qui est de un médecin, enfin, c'est 7 fois inférieur, en fait, pour faire le rapport. Voilà. Donc, et aujourd'hui, nous, on est vraiment sur cette problématique. Donc, le très faible taux de médecins associé à la répartition déséquilibrée des compétences médicales sur le continent africain, notamment avec une forte concentration des meilleures expertises médicales dans les villes au détriment des villages, notamment. Donc, là, c'est vraiment à l'échelle du continent, à l'échelle d'un pays ou même de certaines régions d'un même pays. OK, donc ces deux éléments, en fait, sont responsables de l'isolement du médecin africain qui sont distants les uns des autres et qui n'ont pas de moyens de communication à adapter entre eux pour pouvoir bénéficier de ressources humaines de qualité ou d'expertise médicale de qualité quand ils sont dans le besoin, face à un cas de patient complexe, par exemple.
Ce qui est la cause de nombreux incidents et erreurs médicales.
Exactement. Donc, en fait, cet isolement a pour conséquence, premièrement, de défauts dans les prises de décision médicales, donc de tous ordres, d'erreurs médicales et tout. Et deuxièmement, est source de frustration professionnelle pour le médecin lui-même. C'est donc pour pallier cette problématique que nous avons mis en place REMA, qui se propose en fait d'améliorer la qualité des décisions médicales en connectant tous les médecins exerçant en Afrique à travers une application mobile qui leur permet en fait de partager leurs connaissances, d'échanger leurs expertises, leurs expériences autour de cas de patients et de collaborer en temps réel, quelle que soit la distance, afin de prendre de meilleures décisions et ainsi trouver plus de vie. Donc REMA aujourd'hui, en mettant en relation au sein d'un même réseau, donc d'une application mobile, tous les médecins exerçant sur le continent, facilite l'accès du médecin lambda à l'information, à la connaissance et à l'expertise des autres confrères.
Ils peuvent échanger parce qu'on a vu beaucoup d'errements pendant la crise du Covid-19, beaucoup d'errements, des médecins qui étaient un peu perdus, qui ne savaient pas quels étaient les traitements à administrer et qui étaient tout seuls dans leur coin. Avec une application comme celle-là, je pense qu'elle reste un réseau. J'ai bien compris le principe, non?
Exactement, exactement. C'est comme, en fait, façon caricaturale, on va dire un LinkedIn pour les médecins, même si c'est un peu plus spécifique que ça.
Alors, comment procède le médecin s'il veut entrer dans ce réseau qui compte déjà quand même pas mal de praticiens?
Oui. Pour entrer, c'est simple. REMA, c'est le réseau d'échange entre médecine d'Afrique, donc c'est une application mobile qui est disponible sur les stores de téléchargement, notamment sur Google Play Store. Mm-hmm. Il y allait de taper REMA. Et voilà, la première application sur laquelle vous allez tomber, avec un logo vert,
C'est REMA.
C'est le nôtre. Mm-hmm. Oui, c'est REMA, voilà.
Combien vous comptez de médecins à cette date-ci?
On a plus de 6000 médecins aujourd'hui.
Vous avez plus de 6000 médecins. Est-ce qu'il y a eu une augmentation avec le Covid-19? Est-ce que vous avez vu un peu plus d'intérêt des médecins pendant cette période?
Oui, bien sûr. Il y a à divers niveaux. Déjà, par rapport à l'acquisition de nouveaux médecins, on est passé de 6, enfin, on a dépassé largement les 7000 médecins aujourd'hui. Mmh. Et aussi par rapport à l'usage du service, notre taux de rétention a doublé de avril à aujourd'hui, donc durant la période Covid-19, on va dire. Et 70% des discussions qui sont menées aujourd'hui sur la plateforme tournent autour du Covid, du coronavirus, en fait, du Covid-19.
Alors, par curiosité, que disent les médecins du coronavirus, du Covid-19? Est-ce qu'ils sont plus à l'aise aujourd'hui? Est-ce qu'ils regardent ceux du Nord en disant on va adopter leur solution, ou bien ils ont leur solution à eux sur le continent, comme on a pu le voir ça et là?
Ben, les discussions sont vraiment variées. Ça parle des protocoles thérapeutiques qui sont parfois différents, voilà, partant d'un pays à l'autre, ce qui est une vraie problématique, qu'on résout aussi d'une certaine manière. Aussi. Donc il y a la diversité des traitements dans le cadre du coronavirus allant d'un pays à un autre. Il y a également l'information du médecin par rapport à la maladie du coronavirus elle-même. Donc voilà. Donc
c'est essentiellement des médecins qui exercent en Afrique, ou bien y a-t-il d'autres médecins qui sont rentrés dans les réseaux et qui sont ailleurs qu'en Afrique, qui apportent leur expérience?
Exclusivement des médecins qui exercent sur le continent africain. Mais par contre, dans le cadre d'autres services à valeur ajoutée apportés par REMA, on peut prendre des experts d'autres continents qui viendront apporter leurs expertises sur des thématiques données aux médecins du continent, toujours dans le but d'optimiser leurs compétences médicales.
C'est intéressant, c'est très bien de créer des applications, de créer des réseaux comme ceux-là qui permettent ainsi de faire face à la maladie, mais si ces applications ne rapportent pas, si ces applications ne sont pas économiquement viables, il est évident que ça va mourir. Est-ce que vous avez pensé à cet aspect-là? Je voudrais qu'on en parle tous dans la seconde partie du débat africain, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. On évoquera également les soutiens ou les partenaires qui peuvent se joindre à vous, notamment les banques, qu'on n'entend pas beaucoup dans ce domaine-là jusqu'à maintenant, puisqu'on a le sentiment qu'elles sont restées très très frileuses vis-à-vis de toutes ces inventions et vis-à-vis de toutes ces start-up qui naissent souvent à la faveur de ce Covid-19, qui était jusque-là présente, mais que l'on ne prenait pas au sérieux. On en parle juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute, et à très vite.
Le débat africain. Alain Foucault.
Sans avoir forcément fait des études de médecine, ils apportent des solutions décisives dans le secteur de la santé dans leur pays. Bien qu'ils restent dans l'ombre, Grâce à leur invention, ils apportent des solutions concrètes aux médecins et aux malades grâce aux nouvelles technologies et à l'intelligence artificielle. Leur start-up met en liaison des malades avec des médecins jusque dans les coins les plus reculés. Une révolution dans un continent où on compte en moyenne un médecin pour 10 000 habitants. Ils mettent également en liaison les médecins afin qu'ils partagent leur expérience, leur connaissance. Bref, ils essaient de créer un nouveau lien entre le corps médical et la population. Mais comment s'organise ce secteur de la recherche? Comment vivent ces startups? Quels sont leurs clients? Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche à ces chercheurs de l'ombre qui travaillent dans la modernisation de la médecine africaine. Plusieurs invités au téléphone. Ils sont en direct dans plusieurs pays. D'abord, Chik Sekou Bamba, doctorant en Engineering Management, directeur général de SCB Systems, qui a initié une solution de santé baptisée Apollo. Il est basé à Washington DC, aux États-Unis d'Amérique. Notre second invité est en direct de Cotonou au Bénin, Cédric Degbo, qui est le fondateur et DG de la plateforme collaborative REMA, qui s'est donné pour mission d'aider les médecins et étudiants en médecine exerçant en Afrique à partager et démocratiser leurs connaissances. Il a d'ailleurs obtenu le prix de l'innovation numérique 2019 du FIDEA. Il faut dire qu'il voulait s'attaquer à l'épineuse question des erreurs médicales qui fait tant de victimes en Afrique, la troisième cause de mortalité dans le monde après le cancer et les problèmes cardiovasculaires. Notre troisième invité est le docteur Eloi Herman Monkam, le fondateur et médecin-chef de la fondation médicale Théa, créateur de l'application médicale Théa Health Again, qui met en relation patients et praticiens. Docteur Eloi Herman Monkam est aussi le fondateur et DG de MH Origins Enterprise. Voilà pour nos invités. Dans la première partie de ce magazine, vous avez parlé des différentes applications que vous mettez à la disposition à la fois du grand public, mais également des professionnels de la santé. Mais lorsqu'on écoute ce que vous faites, c'est très intéressant et on se dit, mais de quoi ils vivent avec des outils qui coûtent cher et qui finalement ne sont pas des services tellement payants. Cheikh Sekou Bamba, lorsqu'on écoute par exemple Apollo, la solution Apollo, de quoi vit-elle?
Déjà, il faut le dire qu'avec nous, nous avons différentes sources de revenus parce que nous avons les grants qui viennent en fait du gouvernement américain. Vu que je suis, comme vous l'avez dit, doctorant à George Washington University, on a vraiment l'accès à beaucoup d'argent. Mais je peux vous dire que pour le COVID-19, la National Science Foundation m'a contacté pour une soumission de grant de $250,000 et la deuxième phase serait $500,000. Donc, nous avons accès à ce en fait, potentiel-là parce que nous sommes soutenus par les universités. Voilà pourquoi, selon moi, en Afrique, il faudra revoir la cartographie du système d'innovation en Afrique complètement. Parce qu'il faut créer un nouveau système qui est mixé de chercheurs, des universités, des entreprises, des ONG et des fonds de recherche gouvernementaux. Comme ça, en fait, ils pourront encourager en fait, la recherche. Et nous, en tant que scientifiques, nous devons passer de cette méthode en fait de découverte scientifique à l'invention. Et il faut savoir que lorsque nous avons une invention et tout dans la production, avant de lancer, il n'y a que l'utilisateur qui définira en fait le succès de nos produits. Et dans ce domaine de technologique, et on dira que on a différentes catégorisations de l'innovation, en fait des utilisateurs de l'innovation. Donc il y a différentes méthodes en fait pour la pénétration du marché qui prennent du temps. Il faut prendre.
Mais moi j'ai envie de me tourner vers vous en disant vous êtes un vénard, c'est-à-dire vous êtes financé par les États-Unis d'Amérique par des fonds qui ont beaucoup d'argent. Mais si on a envie de dire en fait votre application c'est une application étrangère même si c'est un Africain qui est à la tête.
En fait on peut dire une application africaine parce que en m'adressant à toutes ces multinationales je le leur dire. Je suis africain, je me contente de développer l'Afrique et d'améliorer le système sanitaire africain. Je ne cherche pas à améliorer le système sanitaire du pays dans lequel je réside ou de leur pays, parce que je considère que l'Afrique est l'avenir et en Afrique, nous avons plus de problèmes. Parce qu'avec plus de 60% des maladies transmissibles et non transmissibles dans le monde, sachant que nous avons moins de 15% de la population mondiale, mais c'est inadmissible, en fait, que nous, chercheurs, nous ne nous concentrons pas, en fait, sur vraiment régler, en fait, ce problème sanitaire que nous avons en Afrique.
Mais voilà on a envie de dire, s'ils financent, ils ne sont pas que des philanthropes, s'ils financent, demain, la start-up peut être rachetée par des grands groupes américains ou des grands groupes européens. Est-ce que vous vous êtes rapproché des dirigeants, des hommes d'affaires, des investisseurs africains pour qu'ils rentrent peut-être dans votre capital et qu'ils financent aussi?
On dira en fait, voilà pourquoi notre démarche déjà avec l'application est une plateforme réelle pour tout l'écosystème. parce qu'elle ne sera pas gratuite pour les services, mais pour l'obtention de l'application, tout est gratuit. Mmh. Et on ne peut pas fonctionner sur la gratuité si nous voulons, en fait, avec le projet que nous avons, nous ne pourrons pas fonctionner sur la gratuité et, espérer transformer l'Afrique. Parce que ça nécessite beaucoup d'argent. Ça nécessite, je peux le dire sincèrement, des milliards pour pouvoir subvenir, en fait, à toute cette capacité, en fait, de production que l'application doit avoir. Vu que synchroniser des millions d'habitants, je peux vous dire, nous avons signé un partenariat il y a juste 2 mois de cela avec une entité ivoirienne qui a en son sein 1,2 million d'utilisateurs qui vont venir, en fait, utiliser notre application pour l'annual check-up, le bilan annuel de santé. Et ce sont, en fait, ces services de collaboration qui nous aideront à être sustainable, à penser à l'avenir, à toujours innover et améliorer.
À être pérenne.
Voilà. Parce que sans argent, on ne peut pas développer. On ne peut pas développer.
Oui,
voilà.
Mais ce n'est pas avec l'argent de l'autre que l'on va développer. Est-ce que vous pensez que sur place, on va pouvoir trouver des financements pour développer des choses qui sont tout aussi importantes? Une grande base de données médicales de tous nos patients, de toute notre population.
C'est voilà pourquoi il faut prendre, en fait, la population élevée et le problème réel à corps. Parce que lorsque nous fixons le problème, il va de soi que notre solution soit indispensable. Et si la solution est indispensable, l'individu lambda sera d'accord à payer sa contribution financière pour, en fait, son avenir.
Parce que il faut d'abord une volonté politique.
Ça, je l'accorde. Parce que la politique en Afrique est vraiment très lente. Vraiment, vraiment très lente. Elle est administrative. Elle n'est pas aussi adaptée à la nouvelle technologie. Elle n'est pas adaptée. Ça, sincèrement, nous avons, en fait, certaines dirigeants qui ne connaissent pas, en fait, la nouvelle technologie, qui n'ont pas été dans la nouvelle technologie et qui sont, en fait, récalcitrants, en fait, du changement. Donc, avec la nouvelle technologie, nous avons la traçabilité de tout et la traçabilité peut apporter, en fait, différentes solutions pour, dans plusieurs domaines, en fait, même, en fait, en Afrique. Mais, il faut le dire, les gouvernants africains ne sont pas vraiment attraits à la technologie parce qu'ils doivent être mieux éduqués. Il y a la maxime qui dit « divide to conquer », encore diviser pour régner. En fait, dans notre sens, en tant qu'innovateurs, nous devons fonctionner en tant qu'équipe pour réduire, en fait, l'impact de chaque individu, en fait. Nous divisons le travail en efforts collaboratifs. On pourra, en fait, arriver à mettre nos solutions sur le marché africain.
On va parler de ça, du partage des connaissances, de la collaboration qui est encore lente, on va en parler, mais ce n'est pas le fait des dirigeants. Docteur Éloi Herman Monkam, vous avez 35 000 téléconsultations en 3 ans déjà. 35 000 téléconsultations, c'est très bien, mais est-ce qu'il ne faut pas penser à un écosystème, à un modèle économique qui permette à cette application Théa de vivre par lui-même, de ne pas attendre des subventions et de ne pas attendre que vous le financiez tout le temps. Avez-vous un modèle qui va permettre ainsi de se dire voilà un système qui va permettre aux villageois, à ceux qui sont dans les campagnes et à monsieur tout le monde, même dans les villes puisqu'il manque de médecins, ben tout simplement d'avoir une consultation correcte.
Vous savez, monsieur Foucault, les patients, qu'ils soient nantis ou pas, n'aiment pas l'hôpital par définition. C'est-à-dire que si on pourrait avoir une prescription de médicaments pour des céphalées, pour des maux de tête, pour des douleurs abdominales, obéissant au bureau, ce serait aisé.
Ça, donc, c'est clair.
Selon notre approche, 1,5 milliard d'habitants sur le continent africain, environ 500 millions de patients d'Africains connectés. Pour nous, chaque Africain connecté est un potentiel patient. Maintenant, il faut arriver à faire qu'ils réussissent à payer. C'est 1 euro, c'est 650 francs CFA de consultation, qu'il soit rural, qu'il soit urbain, qu'il soit jeune, qu'il soit vieux, qu'il sache qu'il peut accéder à un médecin à distance. Si on arrive à faire connaître l'application, à travailler pour qu'il arrive à payer ce service médical qui est quand même maudit, 150 francs pour accéder à un médecin, c'est assez intéressant. Vous voyez le potentiel fois 500 millions de connectés. Donc, le business model est là, la rentabilité est là. Maintenant, le défi que nous avons, c'est plutôt faire connaître l'application et travailler sur, comme le collègue l'a dit, la récalcitrance des Africains face à la technologie. Vous avez des jeunes à qui vous voyez des solutions, malgré le fait que c'est vital pour eux, ils hésitent à utiliser parce qu'ils disent on ne maîtrise pas, on n'est pas sûr que ça va marcher, on ne sait pas sûr qu'il y a des gens de confiance.
Le grand débat de l'Africain doit faire confiance aux autres Africains, c'est bien celui-là.
Effectivement.
Pourtant, on a le sentiment que les jeunes sont très très connectés en Afrique et que de plus en plus ils s'intéressent à des choses qui sont bien africaines. Quand on le regarde dans le domaine de la télévision, des séries, ils sont très très consommateurs. Vous pensez qu'ils ne croient pas aux scientifiques, que ce jeune-là ne se connecte pas?
Je vous dis, c'est un grand leurre. J'ai eu la chance de rencontrer le fondateur de Jumia, Maroc. Je vous dis, il nous a demandé tout dans la salle, combien d'entre vous a une application africaine dans son téléphone? On a WhatsApp, on a Facebook, on a des applications étrangères, mais on comptait le nombre de personnes qui ont des applications de leur propre pays ou de leur continent dans leur smartphone. C'était compté sur le bout des doigts. Parce que justement, on est habitué à ce qui est massif, ce qui est distrayant, mais l'aspect novatif, l'aspect créateur est pour nous difficile à accéder, je vous assure.
Et ça ne vient pas du fait que vous ne faites pas suffisamment de publicité autour, c'est-à-dire vous faites sans faire savoir. Quand vous regardez les grandes structures, il y a un budget important pour la connaissance du propos, faire connaître le produit.
Oui, ça c'est vrai. Pour faire autant de publicité, il faut aussi mettre un gros budget, que nous n'avons pas encore pour le moment, c'est vrai. Mais par rapport à la communication que nous avons faite, nous avons la chance de faire Canal Plus Horizon, M6, France 2, France 24, des médias importants pour parler de l'application.
Mais ces jeunes-là ne regardent pas ces chaînes de télévision. Les jeunes auxquels vous vous adressez ne regardent pas forcément ces chaînes de télévision. Est-ce qu'il n'existe pas d'autres moyens de communiquer sur place? Et là, vous-même, vous venez de citer des chaînes qui sont toutes des chaînes étrangères, pas des chaînes locales. Donc peut-être que vous avez mal communiqué. Peut-être que vous oubliez de communiquer sur les médias locaux directement.
Non, aussi, on a fait des chaînes locales. Africa 24, Canal 2, beaucoup de chaînes locales. Le premier RFI en ce moment, par exemple, c'est du Cameroun. Donc l'idée pour nous, en fait, c'est de communiquer suffisamment pour que les jeunes soient au courant, mais qu'ils arrivent à tester la solution avant de se faire une idée. Mais je peux vous dire, par expérience, avec 3 ans, avec les autres fondateurs que j'ai rencontrés en Afrique, on a un frein à utiliser nos applications africaines nous-mêmes, parce que de prime abord, on s'est dit ça ne marchera pas ou ça marchera difficilement. Ça, c'est l'expérience qu'on a pu avoir avec les utilisateurs africains, malheureusement.
Il y a un gros travail à faire pour donner confiance, pour que on fasse confiance aux chercheurs et créateurs africains, à ceux qui proposent des solutions en Afrique. Cédric Degbo, est-ce que c'est le même sentiment que vous avez, vous qui vous adressez surtout à des professionnels de la santé?
De toute façon, dans tous les cas, avoir un modèle économique, dans la santé numérique a toujours été une problématique qui date pas d'aujourd'hui, encore plus pour des entreprises, des startups qui évoluent dans l'environnement, dans l'écosystème africain. Ceci dit, pour faire un bref aperçu de REMA, aujourd'hui REMA, c'est plus de 2000 cas médicaux qui ont été résolus grâce à la plateforme pour un total de plus de 6000 médecins utilisateurs aujourd'hui venant principalement des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Donc nos utilisateurs viennent d'une vingtaine de pays africains, mais nous-mêmes, on est opérationnellement installés dans 3 pays, on peut dire dans 4 pays déjà, donc on est au Bénin, qui est notre siège principal, notre siège social. On est désormais au Togo, en Mauritanie et au Cameroun, d'où nous menons toutes nos opérations sur le terrain.
Alors on reproche souvent à vous, chercheurs, vous, créateurs de solutions en Afrique, de beaucoup trop cacher ce que vous faites et de ne pas vous mettre en réseau pour développer votre affaire au niveau continental. Est-ce que c'est vrai, Cédric Degbo?
C'est pas vraiment de la volonté des créateurs d'évoluer comme ça, parce que toute solution, elle est d'abord locale avant d'être continentale ou globale. On ne peut pas démarrer partout en même temps. Il faut faire la preuve de concept, trouver son product market fit, c'est-à-dire trouver son marché, et puis maintenant dupliquer ce modèle-là à l'international.
C'est
dans cette démarche, en fait, que nous sommes aujourd'hui, parce qu'on a trouvé le produit market fit, et puis on est en train maintenant de s'internationaliser dans d'autres pays pour avoir une certaine profondeur de marché. Pourquoi? Parce que notre modèle économique à nous repose sur la monétisation de notre audience de professionnels de santé, vu qu'on a un aspect communautaire. Donc au-delà de la communauté médicale qu'on développe autour de l'application mobile REMA, on a un outil de marketing médical, en fait, de communication médicale institutionnelle qu'on vend tout simplement ou qu'on met à disposition des entreprises et des organisations à but lucratif ou non lucratif qui ont un intérêt, en fait, à communiquer avec les médecins qui exercent sur le continent. Donc cet outil leur permet de pouvoir cibler et toucher les médecins d'Afrique en un clic.
Pour votre mode de fonctionnement, alors aujourd'hui, très concrètement, est-ce que les petites tailles de vos entreprises ne sont pas leur réelle faiblesse. Est-ce que vous ne devriez pas vous rapprocher des financiers pour qu'elles soient suffisamment grosses pour ne pas rester comme des petites PME qui se démerdent, qui se battent dans un environnement qui n'est pas toujours évident? Est-ce que c'est pas ça le plus gros du problème, et Dr Éloi Herman Monkam?
Oui, nous avons été rachetés au Maroc récemment, il y a 2 ans, par un fonds d'investissement indien. Mais l'idée, c'est que c'est...
Vous avez été racheté avec... ou bien on a failli vous racheter?
On a failli nous racheter.
Voilà. On a failli vous racheter, voilà.
il y a 2 ans. L'idée, c'est que le projet est intéressant parce que on offre une téléconsultation à distance. Donc, toute personne qui a un smartphone pourra consulter un médecin, maintenant un paiement très bas. Mm-hmm. L'idée, c'est que les investisseurs, parfois, arrivent avec leur vision, qui n'est pas forcément la vôtre. Parfois, ils veulent imposer leur vision. Et si une application qui, à la base, devait être humaine et sociale, même si elle devient rentable, devient uniquement du business, uniquement rentable, uniquement de la rentabilité du capitalisme.
Oui, mais est-ce que quand elle reste humaine, elle n'est pas trop petite et qu'on la rachète facilement, ou en tout cas on crée quelque chose d'un peu plus important à côté? Est-ce qu'il ne faut pas grossir aussi, accepter que l'on entre dans le capital, que l'on en fasse quelque chose de suffisamment important pour le mettre au service des populations?
Oui, effectivement, mais il y a 2 solutions dans ce cas. Si le porteur de projet a suffisamment de moyens pour mûrir ce qu'on a réussi à avoir, on a eu un gros financement interne, là, il peut se propager. Mais si on veut céder du capital à des investisseurs étrangers, généralement, d'abord, il faut encore le dire, très peu d'investisseurs africains veulent investir leur argent dans les startups africaines. C'est encore un problème, je l'ai dit, le problème de confiance. Mm-hmm. Donc, des Indiens qui viennent de l'étranger, les médecins, des gens qui viennent de l'étranger, des Indiens, des Américains qui viennent pour investir dans les startups en Afrique, le problème, c'est conserver la vision. Si vous considérez laisser une consultation à 650 francs accessible à tout le monde et qui vient à 2000 francs ou à 2500 francs.
Non, mais moi je parlais des banques locales, je parlais des financiers locaux, pas forcément des structures internationales. Est-ce que vous vous êtes rapproché des investisseurs locaux?
Aussi, le problème avec les banques, comme vous savez, c'est les garanties. Une banque va vous demander un titre foncier.
Va
vous demander, voilà, des choses que vous n'avez pas forcément. Étant jeune start-up avec 2 ans d'expérience, 3 ans, vous n'avez pas forcément des éléments qui vont vous demander. Ils vont vous demander des garanties que vous n'avez pas. Et ils sont très traditionnalistes. En Europe, par contre, il y a des mécanismes pour développer les start-up qui ont du potentiel et financer avec une partie. L'idée, c'est qu'une start-up, par définition, dans son ADN, c'est le risque. Ça veut dire que le risque qu'elle marche est très faible, mais si elle marche, le potentiel est extrêmement élevé.
Exponentiel.
Or, les banques, par définition, je vous assure, elles sont toujours traditionnelles en Afrique. On a fait plus de 40
ans. On a reçu quelques banquiers ici et je pense que les choses vont peut-être changer après le Covid. Cheikh Sékou Bamba, vous qui êtes aux États-Unis, qui avez débarqué avec la solution Apollo, vous avez moins connu ce complexe, c'est-à-dire vous êtes arrivé avec l'image des États-Unis d'Amérique. Ça a été plus facile, non?
Je vous l'assure qu'avec l'image des États-Unis, ça a vraiment été plus facile.
Si vous étiez arrivé en tant que Cheikh Sékou Bamba, ça ne se serait pas passé aussi vite.
Ça ne serait pas passé aussi vite parce que avec en fait la portée américaine, il y a déjà en fait l'image. Parce que si je peux même me permettre de revenir, c'est que nous avons une mentalité en Afrique que nous devons rééduquer. Donc nos chercheurs locaux qui sont en Afrique n'ont pas vraiment l'accès en fait au financement, aux structures nécessaires en fait pour leur développement. Et nous, à notre niveau ici, nous n'avons pas eu en fait ce problème parce que financièrement, nous n'avons pas vraiment de problèmes financiers.
Ce qui pose le problème du financement de la recherche en Afrique, de la volonté politique des dirigeants d'aider à faire de la recherche sur place. Et je pense que le Covid-19 est venu rappeler que ces dirigeants n'auront pas toujours le temps d'aller voir le médecin en Europe puisque les frontières peuvent être fermées. Ils ont donc intérêt à développer leurs hôpitaux, à développer leur système de santé. Merci à vous en tout cas, monsieur, d'avoir accepté de venir débattre ici. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un autre débat africain. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.